Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Maintenant, soccer. Le CF Montréal confirme la séparation professionnelle entre l'organisation et celui qui était devenu vice-président et chef de la direction sportive, Olivier Renard, pour en discuter. Un duo que vous connaissez bien, Vandry Lefebvre, notre analyste soccer. Bonsoir, Vandry.
Salut, Mario.
Et mon camarade journaliste et reporter et, ma foi, un gars qui était impliqué dans le soccer depuis tellement d'années et tous les autres sports, Jérémy Filosa. Bonsoir, Philo.
Salut, Mario.
Bon, Philo, la nouvelle a été confirmée. Elle avait été ébruitée en début de semaine par Tony, ouais, par The Athletic, Tony Marinaro. Donc, la chose est confirmée. Je sais pas qu'est-ce qu'on négociait, comment se fait que ça a pris quelques jours là pour qu'on puisse, ouais, le confirmer. Puis, as-tu d'autres nouvelles sur ce qui se trame en coulisses, sur sa succession ou d'autres départs possibles?
Ouais, ben justement, on devait négocier la sortie d'Olivier Renard, s'assurer que tout était dans l'ordre des choses. Ce qui m'a un peu surpris dans le communiqué, c'est qu'on indique à la toute fin que Gabriel Gervais va prendre de façon intérimaire le poste de la direction sportive aussi de l'équipe. Ah. Et ça m'a fait sursauter parce que Gabriel arrive de la compagnie Deloitte, a été loin du soccer pendant quand même plusieurs années, et je sais à quel point la convention collective de la MLS et tout ce qui entoure ce travail-là est extrêmement complexe. C'est pas pour rien qu'Olivier Renard avait Vassili Krimanzidis à ses côtés. Vassili, un Québécois qui a grandi ici et qui a étudié aux États-Unis, est revenu pour devenir son assistant. Et c'était lui un peu le capologiste du groupe. Et la façon dont on se partageait les tâches, c'est que Olivier travaillait beaucoup sur l'international. Vassili travaillait beaucoup sur les transactions intra-MLS. Alors, ils faisaient un bon duo ensemble. Mais là, selon les informations que j'ai pu obtenir, Vassili aussi quitterait le navire. Et ça, c'est inquiétant parce que là, tu coupes la tête, tu coupes le bras droit aussi. Je me demande sur qui va bien pouvoir s'appuyer Gabriel Gervais. Ça me fait franchement assez peur, merci.
Vandry, bon, comment réagis-tu au départ confirmé d'Olivier Renard et maintenant dans la même foulée de Vassili Krimanzidis? Alors, Vandry, tu réagis comment à ça? Puis la suite des choses, tu sens-tu que c'est une catastrophe ou il y aura des lendemains qui seront peut-être pas nécessairement si apocalyptiques, là?
Écoute, Mario, pour moi, Philo vient de mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement important dans la discussion. La fuite, appelons ça comme ça, le départ, peu importe, d'Olivier Renard, c'est une chose et c'est déjà une grosse chose en soi parce que c'était le cerveau de la direction sportive du CF Montréal. C'était celui qui, d'un point de vue sportif, terrain, footballistique, avait remis je dirais le club sur le droit chemin, avec non seulement des résultats à court terme qui étaient performants dans leur ensemble, mais une vision, donc quelque chose qui amène l'organisation à un endroit où on le veut, et à ce moment-là, le club, sa structure se met au service de cette vision parce que c'est dans nos intérêts. Vassili était effectivement le bras droit, et d'une certaine manière un bras droit très important parce que c'était un bras droit exécutant d'un certain nombre de volets techniques à l'échelle de la MLS, de volets contractuels qui permettaient au club d'avancer. On avait la vision, les idées, le caractère stratégique chez Olivier Renard, puis on avait le conseil et l'exécution du côté de Vassili. Là, en voyant les deux partir, ben la peine est double. La peine est double et elle aura des conséquences forcément doubles dans les prochains mois pour l'impact le CF Montréal. C'est ça surtout qui est pénalisant, c'est ce double départ. C'était déjà gros avec Olivier, mais je te dirais que ça s'accentue avec le départ des deux.
Outre le fait qu'on s'attache à ces gens-là parce qu'ils ont fait du bon travail, puis c'était des humains agréables à côtoyer, est-ce que vous pouvez présumer qu'on peut trouver des remplaçants de qualité dans un monde où il y a du soccer partout sur la planète et que c'est plate à dire, malgré l'attachement qu'on a, ou quelque part, tout le monde est un peu remplaçable aussi, comme on l'a vu si souvent, dans non seulement dans le soccer, mais tu sais, quand tu constates Martin Saint-Louis, qui n'a pas 3 ans derrière le banc du Canadien, le 5e en ancienneté dans la Ligue, la morale est qu'il ne faut pas trop s'attacher au monde dans le sport professionnel. Il y a tout, tu sais, ça tourne, là. C'est des portes tournantes. Alors, Philo, là-dessus?
Ben, écoute, ce que je vais te dire, c'est que je me souviens d'avoir parlé à plusieurs reprises à Olivier Renard et il nous avait dit à quel point la façon de procéder dans la MLS est différente de tout ce qu'on voit partout dans le monde, étant donné le plafond salarial, étant donné les règlements d'argent d'allocation. Et Olivier nous l'a dit à plusieurs reprises, sans Vassili, j'aurais jamais été capable de faire ce travail-là. C'est lui qui m'a tout appris par rapport à tout ça. Donc, moi, présentement, aujourd'hui, je ne suis pas capable de t'identifier un ou deux Québécois qui seraient capables de prendre ce rôle-là dès demain matin. Peut-être si on revenait avec un Nick DeSantis qui, lui, a baigné là-dedans, il faudrait quand même que lui aussi se remette à jour. Mais je vois pas de personne ici. Et ceux qui viennent de l'extérieur, que ce soit de l'Europe, de l'Amérique du Sud, même si on les amenait ici, ce serait extrêmement complexe pour eux de comprendre comment tout ça fonctionne ici. Donc, c'est pour ça que je dis que ça me fait très peur. Et peut-être que Gabriel en a beaucoup appris depuis qu'il est là, aux côtés de Vassili et Olivier Renard. Je l'espère, parce que c'est lui qui s'occupe de ça à partir de maintenant. Il va falloir
Vassili, c'est un départ effectif immédiatement, Philo, selon tes infos?
Selon mes infos, oui, il quitterait l'organisation aussi. D'ailleurs, hier soir, au match du CS Saint-Laurent, ils ont été vus ensemble. Alors, ils ont une relation où ils sont extrêmement serrés l'un avec l'autre. Ils sont de très bons amis dans la vie de tous les jours, en plus de travailler ensemble. Donc, c'est pas nécessairement si surprenant de voir ça, parce que on peut voir facilement un gars comme Olivier Renard dire « Écoute, viens avec moi, suis-moi, on va faire le saut ensemble, on va continuer de travailler ensemble, étant donné que la relation est très bonne entre les deux. »
André, quelque chose à ajouter sur ce que Philo a dit et la suite des choses là, dans l'immédiat à court et moyen terme?
Écoute, Mario, moi, je vais me mouiller. Ça me paraît clair, évident. Pour moi, Gabriel Gervais n'est pas, même s'il a un bagage qui lui amène des compétences sportives, n'est pas un directeur sportif. C'est quelqu'un qui a un cerveau qu'il mettra au profit de l'orientation corporative que veut adopter le club. C'est son rôle de président. C'est, je pense, ce pourquoi il est venu relever un défi. C'est pas du tout pour être amené plus proche du terrain. Ça, moi, pour moi, c'est un non, non catégorique. Alors, je le comprends que peut-être d'un point de vue intérimaire, il faut adresser la situation. Et il est peut-être le meilleur profil qui est capable d'assumer. C'est pas viable. C'est pas viable à moyen-long terme. Donc, on va devoir adopter et se mettre de l'avant très rapidement avec une stratégie de recrutement. Et là où je rejoins totalement Philo, pour moi, dans l'environnement local, ici au Québec, on n'a pas, je dirais, ce qu'il faut d'un point de vue compétence quand on le remet en perspective de tout ce qu'on a fait depuis 4-5 ans du côté du CF Montréal. Et là, je parle du rebranding, le nom, le logo, l'internationalisation. Rappelons-nous que c'est comme ça qu'on nous a vendu le fait que ce rebranding prenait effet. Je pense que si on est cohérent, on a donc quelqu'un qui est capable de tisser et de générer des réseaux internationaux avec un bras droit. Et on l'avait, Olivier Renard et Vassili avaient ce profil-là à deux, mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller recruter à l'international ou en tout cas ailleurs qu'au Québec pour pourvoir à ce manque désormais.
Ce qui est dommage, c'est dommage parce qu'on perd des gens de qualité puis que l'organisation perd des gens de qualité. Alors ça, on ne peut que le déplorer. Maintenant, comme tu disais, Vendré, le patron est roi. C'est le boss, c'est lui qui signe les chèques, ultimement prend les décisions. Puis s'il y a un différent, ben c'est sûr que c'est celui qui signe les chèques qui va rester. Mais au-delà de ça, on devrait parler, il me semble, en temps normal, de l'arrivée d'un des peut-être des plus grands athlètes de l'histoire, tout sport confondu, samedi à Montréal. Y a-t-il une fièvre Messi ou elle est reléguée au second plan par cet autre drama qui secoue l'ECF, Jérémy?
Bien, c'est sûr qu'on n'en parle pas assez, malheureusement. Je comprends que Messi arrive seulement demain à Montréal, mais ça devrait être le sujet sur toutes les lèvres. Tout à l'heure, tu posais la question avant la pause. Est-ce que c'est le plus grand athlète à venir au Québec pour offrir une performance? C'est sûr que c'est oui. Lionel Messi, c'est le plus grand athlète, le plus connu, en tout cas, au monde. Alors, Je veux dire, on n'a jamais vécu ça dans le passé. Beckham est venu. Beckham, c'est pas Lionel Messi. Mais on jouait au Stade olympique. On avait vendu plus de 60 000 billets. Donc, c'est devenu un happening extraordinaire. Je pense que le fait que là, on joue dans un plus petit stade, il y a moins de
ça gens. Ça enlève au happening. Dans... Je suis d'accord, ben, Philo. C'est un bon point que tu soulignes, oui.
Puis là, ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec les billets qui restent à vendre. Il reste à peu près, disons, un millier de billets à vendre, entre 400 et 1200 $. On espère que ces billets-là vont se vendre. On s'est peut-être un peu trompé sur le prix des billets parce que sans quoi ces billets-là auraient déjà trouvé preneur. Alors, ce sera sans l'ombre d'un doute la plus petite foule devant laquelle Messi aura évolué depuis qu'il est arrivé ici en MLS. Ça, c'est, je trouve ça un peu plate. T'sais, je sais que les travaux au Stade olympique étaient nécessaires, Mario, mais on attend depuis 25 ans ces fameux travaux-là. Est-ce qu'il y aurait pas, est-ce qu'on n'aurait pas pu, disons, s'entendre entre le club et le stade pour dire « Pouvez-vous repousser ça de 4 mois? On va louer le stade, on va faire beaucoup d'argent, on fera une entente financière, peu importe, je ne sais pas. »
Mais là, il y a eu l'incendie. Hein. Tu sais, dans le temps, c'est les poutres qui tombaient. Là, il y a eu un incendie, qu'est-ce que tu veux? Vendry, sur la visite de Messi, là, tu sens-tu comme un début dans la communauté soccer d'excitation? Ou effectivement, le fait que c'est moins à grand déploiement en étant dans un petit stade enlève peut-être un petit oomph, là, une saveur, mais qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, je vais venir peut-être un petit peu simplement tempérer les propos de Philo. Moi, oui, je le sens quand même l'engouement. Puis écoute, tu le sais, je suis un petit peu quand même aussi au contact du soccer, du monde amateur ici au Québec. Moi, je le sens l'engouement. J'irai pas jusqu'à dire non plus que le tumulte qui a lieu depuis une semaine entre l'affaire Mathieu Chouanière et celle-ci avec Olivier Renard est relégué au second plan. Mais je pense que quand même, plus on se rapproche du match, plus il y a cet engouement. Moi, je le sais aussi en parlant en connaissance de cause d'un point de vue interne. L'organisation se prépare du mieux possible, que ce soit d'un point de vue, je dirais, structurel pour accueillir cet événement qui, et Philo a raison, sera dans une peut-être plus petite, d'une plus petite envergure que ça aurait pu et dû être si on avait la capacité à accueillir Lionel Messi et l'Inter Miami au Stade Olympique. Ce ne sera pas le cas. Maintenant, l'organisation se prépare. Les joueurs sur le terrain, et on se rappelle, on a eu l'occasion plus tôt dans la saison d'affronter Lionel Messi, mais il n'était pas là. Finalement, il n'était pas du 11 de départ. Il n'était même pas de l'alignement, n'avait pas joué. Là,
l'incertitude quant à son départ ou non aussi peut-être freine l'élan là, d'excitation pour le boss que ça peut provoquer, Vendry, en quelques secondes.
Oui, un petit peu. Et en même temps, je vais te dire, moi, mon niveau de confiance, qu'on le voit, est assez marqué pour la simple et bonne raison qu'on s'adresse à l'un des plus grands compétiteurs, tous sports confondus. Il a vu son équipe être battue il y a un peu plus de 2 mois maintenant à domicile par cette équipe du CF Montréal. J'ai fort à parier qu'il voudra, lui, être sur le terrain pour régler 2-3 situations.
Un petit mot à ajouter en quelques secondes seulement, Philo?
Ben écoute, je vois pas pourquoi il jouerait pas. Ça va bien présentement. Il est en santé. 10 buts, 12 passes en 8 matchs. C'est des statistiques à la Connor McDavid, sauf sur un terrain de soccer, pour un gars de 36 ans, soit dit en passant. C'est complètement inhumain. Et là, en plus, Jordi Alba a recommencé à s'entraîner aujourd'hui et possiblement qu'il ferait le voyage. Donc, ce serait Busquets, Alba, Messi, Suarez et toute la gamme là, serait présente pour le match de cette fin de semaine.
Pelé a joué à Montréal contre le Manic, hein? Alors,
oui, t'as raison. Oui, avec le Cosmos, oui.
Est-ce que Messi est le plus grand à avoir joué à Montréal ou Pelé? Bonne discussion. Merci, messieurs. Et en espérant qu'on sente le buzz encore plus grand demain et surtout samedi soir. Merci, Vendry. Salut. Merci, Philo.
Merci, Mario.
Bye bye.
Merci, Philo.
Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
En compagnie de Maxime ce soir, bien le bonsoir Max, comment ça va?
Salut Mario, ça va super bien.
Ouais, quelques sujets, un petit peu moins de temps, je m'en excuse. On était un peu plus compressé ce soir. Commençons par le congédiement attendu de Sheldon Keefe. Il n'y avait pas l'air d'un gars malheureux aujourd'hui, puis il va avoir une job dans 3 mois, peut-être avant.
Oui, 100%. Puis tu sais, il ne faut pas toujours partir en peur, là, puis penser que parce qu'un entraîneur perd son travail et qu'il n'a pas gagné la Coupe Stanley, que c'est un mauvais coach. Là.
Non.
On s'entend qu'il a quand même c'est géré toutes ces vedettes-là dans une organisation avec la pression qu'il y avait. Moi, je considère qu'il a fait un bon travail dans sa façon de s'adresser aux médias et tout ça. Je suis pas inquiet pour lui. C'est un jeune entraîneur, c'est la nouvelle génération. J'ai hâte de le voir dans une équipe peut-être bâtie différemment, s'il est capable d'amener une équipe un peu plus loin. Mais il était temps. T'sais, il était temps qu'on fasse un changement dans ce vestiaire-là, dans cette organisation-là. Puis j'espère que c'est juste le premier changement. Puis qu'on pense pas qu'en amenant un entraîneur vétéran, que ça va tout changer. La réalité, c'est qu'il y a des faiblesses dans cette organisation-là, puis il faut les régler sur papier pour être capable de passer au prochain niveau.
Le club est mal bâti, peu importe qui le coach. Ouais. Là, ils peuvent pas tous être mauvais. Là. Babcock a pas été capable. Lui a pas été capable. Crois-tu que Guy Boucher peut être un candidat à la succession? Puis en même temps, on n'est même pas sûr s'ils vont garder tous les adjoints.
Ben, ça se peut très bien. Ça va dépendre. Moi, je pense que ça dépend beaucoup de Shanahan. T'sais, je sais pas si on a confirmé son rôle ou si on attend un peu, mais ça va dépendre du pouvoir que Shanahan va avoir aussi s'il reste là. Est-ce qu'on va essayer de changer l'identité, la façon de gérer les entraîneurs, puis tout ça, ça reste à déterminer. Je pense que Guy Boucher, bien évidemment, il a fait ses classes. Est-ce que d'amener un entraîneur, par contre, qui est déjà dans l'organisation, ça fait vraiment un changement d'heure? Ça, je ne sais pas, j'en doute, mais c'est sûr et certain qu'il est qualifié pour le travail.
Par ailleurs, le match hier entre les Bruins et les Panthers de la Floride, avec un écart de pointage assez considérable, tu t'attendais probablement du Brass Camarade. Tu sais comment ça se passe. Moins le match est à la portée d'une équipe, plus il y a de chances que ça dérape. Je sais pas si tu qualifies ça de dérapage, 148 minutes de pénalité. Le combat Pasternak contre Tkachuk. Et les deux coachs jubilaient là, après le match. Ils étaient bien contents que le gars se soit battu. Même si Tkachuk a mieux paru parce que l'autre n'est pas habitué, puis il a tombé, pas parce qu'il a mangé une volée, mais parce qu'il est tombé.
Oui, bien, tu sais, Mario, on a tellement parlé des bagarres puis d'avoir peur que les joueurs étoiles se blessent et tout ça, mais à un moment donné, je pense que la ligne est mince entre contrôler tout ça puis enlever la passion dans le match du hockey. Puis je pense qu'hier, c'est sûr et certain qu'il y a un débordement, là, mais...
C'était de la passion.
Il y a de la passion, puis tu sais, c'est... Je voyais Pasternak, puis ça va voir son entraîneur, à moins que j'ai mal vu, mais il me semble qu'il était...
Oups! On vient perdre. Pour moi, il a-tu perdu son AirPod, mon Maxime?
Merci. Si.
T'as-tu eu connaissance qu'on t'avait perdu ou tu t'en es pas rendu compte? On t'a perdu un 10-15 secondes, désolé.
Ben oui, mais j'ai dit, je vais essayer de continuer juste au cas.
C'est bon. Ben continue, Max, continue.
Non, mais tu sais, c'est juste de bien calculer les affaires, mais en même temps, faut pas enlever la passion dans un match de série, je crois.
Et en ce sens, c'était l'expression d'une passion pure des deux côtés. Aimes-tu le fait que Pasternak, qui n'est pas du tout habitué à ça, ait demandé la permission? Tu sais, il l'a dit là, à tout le monde. Là, lui, là, je t'année, je veux me pogner avec, ça va faire, je me laisserai pas intimider. Moi, j'aime ça qu'un joueur de talent veuille se tenir debout devant un gars qui a un côté intimidant, là.
Ouais, 100%. Puis tu sais, on le sait, là, de l'autre côté, Tkachuk, il va faire ça tous les matchs. Donc, à un moment donné, tu veux montrer que tu ne vas pas juste laisser faire puis que tu vas te présenter. Puis ça n'a pas besoin d'être un combat, par contre, parce que imagine, il se casse un doigt, une main, là, tu perds un gros doigt du côté de Boston. Tu sais, ce serait dramatique quand même, mais peut-être juste de répondre avec une bonne mise en échec, propre, de la bonne façon, puis de peut-être élever ton jeu d'un cran. Des fois, c'est peut-être ça la meilleure réponse.
J'ai très hâte de m'entretenir tout à l'heure avec le grand acteur québécois, puis un grand communicateur, Gildor Roy. Je sais pas si c'est le fan numéro un des Bruins au Québec, mais en tout cas, parmi les gens connus, lui, Stéphane Larouche, Claude Poirier, sûrement parmi les plus connus. Puis j'ai hâte de voir comment Gildor a vu ce match-là hier. C'est 1-1 dans la série. Par ailleurs, ton ancien club, les Canucks de Vancouver, je pense qu'on les sous-estime, Maxime.
Oui, t'as raison. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est pas tout le temps spectaculaire. C'est juste un beau travail d'équipe. Puis tu sais, moi je lève mon chapeau à Rick Tocchet. C'est tellement, j'ai eu la chance de l'avoir à Pittsburgh. C'est tellement une bonne personne. C'est tellement un bon communicateur. C'est un gars qui est très très honnête. Puis qui, il joue pas à l'entraîneur. Tu sais, je m'explique. Là, c'est pas le gars qui rentre dans le vestiaire puis il te regarde de haut puis il agit comme si tu travailles pour lui. Au contraire, il travaille avec toi. Il prend son temps, il amène des suggestions et non des directions. Si ça fait du sens, c'est pas toujours fais ça puis place-toi là. C'est qu'est-ce que t'en penses? Si T'es allé là en échec avant à la place. Là, c'est une belle discussion avec. Puis je pense que c'est, il est adoré à Vancouver. Puis faut pas oublier, tu sais, le coaching staff au complet, c'est tous des vétérans qui ont joué puis qui ont été des vedettes dans la Ligue nationale de hockey. Puis des fois, cette expérience-là, en série surtout, ça vaut très, très cher.
C'était quelque chose, l'ambiance hier, hein, qu'en troisième période, JT Miller à 9,38, Zadorov, que j'adore, là, je le prendrai dans mon club, ça dépend quel prix, à 13,47. Ensuite, pas tout à fait une minute plus tard, Garland qui marque le but, qui donne l'avance à l'équipe. Puis Tocchet contient bien ses émotions normalement après un match, mais hier, il donnait des high-fives aux spectateurs le long de la...
Ouais.
Il était content, tu sais.
Ouais. Non, mais c'est une belle foule à Vancouver. Puis lorsque il y a de l'engouement comme ça, puis on pense qu'on a une chance de gagner, tu sais, la ville est vraiment hockey. Je l'ai vécu. C'est spectaculaire. Puis les gens t'approchent dans la rue, puis tu vois qu'ils sont fiers. Parce que, tu sais, c'est pas des marchés. C'est des marchés qui sont là depuis longtemps, mais ils n'ont jamais eu les Coupes Stanley que le Canadien a eu, qu'on a la chance, la tradition, puis tout ça. Il manque un petit quelque chose dans ces villes-là, puis ils sont fiers à un moment donné d'écrire leur histoire, leur page d'histoire, puis c'est comme ça que ça commence, t'sais. Puis là, ils ont des bonnes équipes depuis quelques années, puis il était temps qu'ils passent à la prochaine étape, puis je pense qu'ils sont en train de le faire. Si les Oilers se réveillent pas, là, ça pourrait passer là.
Je sais pas si tu as vu l'extrait de point de presse de Rick Bowness, sa dernière conférence de presse en carrière, où il était ému en parlant du fait que, tu sais, on lui demandait de comment tu veux qu'on se souvienne de toi, tu sais, lui a dit comme un gars avec beaucoup d'émotion, les trémolos dans la voix, comme un gars qui a respecté la game, qui a respecté la ligue, puis au-delà de gagner ou perdre, parce qu'il y a des affaires que tu contrôles pas, comme de perdre un joueur en finale de la Coupe Stanley, tu sais, tu nous parlais des Canucks, tout le monde t'a magané. Il dit, par contre, ce qu'on contrôle, il dit, tu sais, c'est comment qu'on interagit avec les gens. Puis j'espère avoir eu, au-delà de coacher, un impact positif sur la vie de mes joueurs en dehors de la glace, comme sur la glace dans les 10 dernières années. Puis à la suite de ce que tu as dit sur Tocchet, je conclue la conversation avec toi en te demandant, c'est quoi pour toi un bon coach, Maxime?
Bien, c'est quelqu'un qui réalise que tout le monde dans son équipe, c'est pas le même style d'être humain. Il est capable de s'ajuster puis de comprendre la réalité que t'as peut-être un gars qui arrive puis qui vient d'avoir un bébé puis qui dort pas de la nuit puis ses performances à la glace, tu vois qu'il y a pas d'énergie, autant que t'as des jeunes qui donnent pas l'effort nécessaire pour faire leur place ou des vétérans qui sont blessés, qui sont en train de faire pour l'équipe. C'est juste comprendre les situations du côté humain de chaque joueur. Je pense que ça, c'est, puis Rick Bowness en était un, puis je l'ai mentionné hier à notre podcast. Il est venu me chercher droit au cœur dans son point de presse parce que je l'ai adoré à Vancouver. Je l'ai texté aujourd'hui. Tu sais, c'est une bonne personne. Puis ce qu'on voit dans les médias, c'est exactement lui qu'on voyait dans le vestiaire.
Ben oui, j'oubliais que tu l'avais côtoyé, tabarouette. C'est vrai, Maxime, ça l'adjoint.
C'est vraiment, là, vraiment tellement une bonne personne. Quand je suis arrivé à Vancouver, j'étais un peu perdu, là, parce que j'arrivais de ma transaction du Canadien à Anaheim. Puis lui, il a pris le temps de s'asseoir avec moi tôt le matin, faire des petites vidéos, de me parler comment ça filait. Gros, il avait toujours le gros sourire. Puis je peux te dire qu'une grosse partie de moi qui est revenue à sa bonne voie dans ma carrière, c'est à cause de Rick Bowness, puis bien évidemment Alain Vigneault.
Ben, c'est vraiment bon, ça, ce bout de témoignage-là. Et ma foi, ouais, ça ajoute. Puis Mario Tremblay m'en avait dit beaucoup de bien. Il l'avait connu dans le temps avec le Canadien. Il appelait ça le bleu-blanc-rouge, là. Ouais. Dans leur carrière junior à tous les deux. Puis Alain m'en a parlé. Toi, tu m'en parles maintenant. Je m'en rappelais plus que tu l'avais côtoyé. Alors, Maxime, je te souhaite une excellente fin de soirée sur ce. Et je te dis à la semaine prochaine.
Bye-bye. Salut.
Salut au bataillon de Saint-Hyacinthe. Et à bientôt. T'as eu des bonnes réactions, Max, oui?
Ouais, ça
ouais.
Super bien là-dessus.
All right, good.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
Ça fait très longtemps que j'ai eu l'occasion de lui parler, bien avant qu'il ne s'envole vers Los Angeles, où il vient de compléter une troisième année dans l'uniforme des Kings, une troisième année où les Kings ont été opposés aux Oilers d'Edmonton en série. Le numéro 24 des Kings est avec nous ce soir, l'ancien du Canadien et des Hawks, Philippe Dano. Bonsoir, Philippe.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. C'était-tu ton année chanceuse, numéro 24, 2024?
Clairement pas.
Non?
Clairement pas, avec la fin de série qu'on a eue. Non, pas l'année chanceuse, mais c'est pas grave. La date de la fête de ma femme, c'est le 25, donc peut-être 24-25, on sait pas.
Ah, ça te donne de la marge de manœuvre, Philippe, mais qu'est-ce qu'on se dit quand trois années de suite, on affronte le même club puis que le dénouement est semblable, sauf que ça prend un match de moins que l'année d'avant, ce qui veut pas dire que ça n'a pas été moins serré, là. Je sais que des fois, c'est une question de pouce, là.
On se dit que la Ligue devrait peut-être faire 1 contre 16 puis au lieu de division comme ça, parce que C'est, éventuellement, tu finis par affronter Edmonton, ça sera la première ronde, deuxième ronde. C'est juste le format pour lui n'est pas favorable là, de rencontrer cette équipe-là quand ils sont fresh comme ça. Là, c'est sûr que c'est difficile, les deux meilleurs joueurs au monde, évidemment. Là. Donc, ils sont très difficiles à affronter offensivement. Ils ont des moves que tu ne peux pas expecter. Là, donc, ils sont vraiment spéciaux.
Ouais, j'ai vu que vous avez ajusté votre stratégie en désavantage numérique à quelques reprises, passant de ce qu'on appelle le diamant ou le losange, de jouer après ça un gars en haut, trois gars en bas. Mais tu sais, contre McDavid, c'est pas toujours le même moule de plan de jeu de puissance, lui, qu'il met en pratique. Je mentionne McDavid, mais il n'y a pas juste lui. C'est un peu déroutant. Puis vous, qui pourtant avez été le deuxième meilleur désavantage numérique en saison régulière, Philippe.
Ben c'est ça, là, c'est sûr que ça donne à se poser plusieurs questions. Là. Si contre certaines équipes, tu devrais changer ton système. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, c'est le meilleur joueur de la Ligue du monde, là, probablement. Donc, c'est difficile de s'adapter à lui. Là. Je pense qu'on aurait peut-être dû se poser plus de questions. Je sais pas. C'est dur à dire, vraiment.
C'est dur de perdre. Hein? Je t'ai vu après le match, là, je vais te dire, c'est dur de trouver les mots. Hein? Philippe, t'es-tu encore dans cet esprit-là un peu?
Ouais, c'est sûr, mais écoute, je suis chanceux d'avoir ma petite famille, puis ils peuvent me changer les idées, mais c'est sûr que côté professionnel, là, c'est plus tough là, de parler comme ça, mais en même temps, tu sais, il y a une équipe qui gagne par année, puis c'est juste vraiment moins le fun encore de perdre contre la même équipe encore une troisième année, donc c'est ça qui fait plus mal, je te dirais. Là.
C'est garanti. Qu'est-ce que tu penses de ton équipe? Vous autres, c'est quoi votre auto-évaluation de vous, les Kings? Vous sentez-vous que vous êtes là? Tu sais, que vous êtes juste comme à pas grand-chose de tomber sa bonne année puis de traverser toutes les rondes?
Ben oui, c'est comme tu disais, ça s'est fini plus tôt cette année, mais notre game 3 puis notre game 4, on était vraiment là. Puis ça aurait, la game 3, honnêtement, on aurait dû gagner ça. Là, ça aurait fait 2-1, ça aurait changé complètement. Top, là, ben, complètement, en tout cas, jusqu'à un certain point, mais ce qu'il faut changer, c'est que je ne suis pas de GM, là, je ne sais pas, ou ce qu'il faut s'améliorer, je ne sais pas non plus. C'est sûr que j'imagine que ce serait le fun d'avoir un gardien à plus long terme, puis qu'on puisse savoir où on s'enligne. Là, c'est plus difficile de trouver un momentum pour le gardien aussi, contre McDavid, tout ça, donc c'est tough. Là. Peu importe, j'imagine le gardien qu'on aurait eu, ça a été tough.
Oui, non, c'est sûr. Puis, c'est tough pour tout le monde. Tu sais, Jim Pete DeBoer disait quelle récompense on a de finir premier dans l'Ouest. On affronte Vegas en partant. Heureusement, ils ont réussi à gagner en 7 matchs. Mais tu sais, c'est pas une grosse récompense d'affronter les champions de la Coupe Stanley avec des gars qui reviennent de sa liste des blessés. Je parlais avec Julien Brisebois hier, Philippe, puis on parlait d'un élément dont on parle pas souvent là, dans les réponses aux médias parce que personne ne veut se faire répondre ça. Mais on parlait du facteur chance. Puis, Julien admet que le facteur chance existe dans le hockey. Puis, il considère que son club a été. Il y a eu de la chance dans le fait qu'il gagne deux coupes dernièrement puis que l'équipe qui va aller jusqu'au bout cette année va être un petit peu chanceuse. Tu trouves-tu un réconfort dans le fait que, oui, il y a un facteur chance puis peut-être qu'il n'a pas été sur votre bord depuis une couple d'années? Ou?
Ben oui, je suis d'accord qu'il y a le facteur chance, mais tu sais, il faut vraiment que tu aies, je sais pas, la constance aussi. Tu n'aimes pas, il jouait à chaque game, il était all out puis il se donnait une chance de gagner à chaque game. Puis peut-être que c'est sur ça qu'on doit travailler pour être se donner un petit peu plus de chance. Mais, tu sais, Tampa, il y avait une équipe assez exceptionnelle, là, avec un goaler incroyable, puis, tu sais, un power play aussi, tu sais. Le power play est vraiment, vraiment important de ce qu'on voit les trois dernières années, là. Et c'est oui. Vraiment important de pouvoir marquer le but qui fait mal ou deux, tu sais. Donc, c'est ça que je remarque de plus en plus. Le special unit est vraiment, vraiment important.
Quand on vient en Californie, Marc, ça serait vrai pour Tampa Bay puis dans toutes les destinations qu'on... Tu sais, des destinations où on vit l'été à longueur d'année, mais est-ce que tu trouves ça plus difficile ou aucun changement de te préparer à jouer au hockey? L'équipe, tu sais, tu sens-tu qu'on est prêt à sortir des blocs en Californie ou des fois, c'est plus facile de, entre guillemets, de surfer sur l'élan?
Ça peut être plus facile à certains moments, puis dépendamment de la personne que tu es aussi, la passion que tu as. Pour moi, personnellement, c'est pas difficile. Je te dirais même que c'est mieux encore, surtout à cause des day off au soleil. Ça, le 10 minutes au soleil de vitamine D est vraiment important pour moi puis ma famille. Donc, c'est plus facile ce côté-là. Puis je vois à l'aréna, je suis aussi passionné puis rendu que je l'étais à Montréal. Là.
Considères-tu qu'une saison te gruge plus de jus en raison des voyages qui viennent avec le fait de jouer dans l'Ouest que quand tu étais dans l'Est, Philippe?
Peut-être un petit peu, oui. Parce que pour la fin de la saison, on dirait que cette année, je le sentais plus. Mais sais, ça va aussi avec le cours de la saison. On a eu le gros des up and down, on a changé de coach, on a essayé de se retrouver le momentum. Donc, tu sais, c'était pas une saison facile pour nous, là. Puis, malheureusement, c'est mal terminé aussi. Là.
Votre ligne de centre, pourtant, sur papier, tu dis, boy, ça va être difficile de jouer contre Los Angeles. Puis, je suis convaincu que c'est ça l'objectif. Fait que, est-ce que c'est difficile de faire plaisir à tout le monde par rapport au temps de glace, la ligne de centre, notamment, Philippe?
Oui, c'est sûr que ça doit être un challenge pour le coach. Mais en bout de ligne, je pense que tu fais jouer tes meilleurs, puis c'est comme ça que ça marche. Et ceux qui travaillent le plus vont avoir plus de temps de glace, puis je pense que c'est comme ça que ça va être. Ou à ceux à qui tu fais le plus confiance. Donc, je sais pas. Je suis pas le coach, heureusement, donc je sais pas. Je ne suis pas assez bâti, mais c'est jamais facile, c'est sûr, de plaire à tout le monde.
Es-tu impliqué dans les discussions avec l'état-major ou avec les coachs? Il y a des comités de vétérans dans diverses équipes. Est-ce que tu en fais partie, sans indiscrétion?
Ah, ben non, mais tu sais, mettons que ça va pas à ta façon ou tu sais, le coach, tu peux lui parler, dépendamment comment il est ouvert avec les joueurs, mais c'est sûr que c'est quelque chose que tu jases, là, tu peux pas traîner ça, mais normalement, là, tu travailles puis tu vas avoir ton temps de glace.
Une culture du mérite, dans le fond, là.
Culture du mérite, ça devrait être comme ça.
Exactement. Comment tu te plais en Californie 3 ans plus tard, Philippe, quand tu considères tout, là, la vie puis la vie de hockeyeur, évidemment?
Ah ben j'adore. C'est sûr que c'est complètement différent de ce qu'on a vécu à Montréal, mais c'est sûr que on peut faire du patin à voilier dehors, on peut faire du vélo à longueur d'année, on peut avoir du soleil. C'est juste une vie complètement différente. C'est juste vraiment différent. Côté familial aussi, la petite famille. On est plus éloigné, évidemment. On se fait un petit peu moins chaler, ça c'est sûr.
Ben oui.
Qu'à Montréal. Donc c'est vraiment, vraiment différent, mais ça reste du hockey, puis c'est le fun. Puis dans le fond, on joue juste dans une autre ville.
L'offre sportive est assez immense en Californie. Le citoyen en toi ou en dehors du hockey, est-ce que tu trouves plaisir peut-être à aller assister à d'autres événements sportifs, d'autres événements artistiques? Écoute, c'est pas l'offre qui manque, les Dodgers, les Rams, les Lakers, les Clippers, je les nommerai pas tous, mais vas-tu voir d'autres sports? As-tu un peu de plaisir à t'impliquer là-bas ou?
Ouais, ben cette année, on est allé voir notre première game de football, là, les Chargers. Donc, c'était vraiment l'atmosphère électrique, c'était le fun. On est allé voir les Dodgers aussi, la première année. Donc, ouais, c'est le fun, vraiment, d'aller voir les autres sports. Puis, ça crée un engouement. Puis, t'as le goût de suivre les autres sportifs ici de Los Angeles. Tu sais, c'est le fun, là, de pouvoir même jaser avec eux quelquefois. Donc, puis de voir les célébrités au game, donc c'est vraiment spécial.
Oui, t'es-tu déjà retrouvé face à face? C'est pas le plus grand joueur de la NBA, mais avec un LeBron James, par exemple.
Face à face, non. Non, parce que, je sais pas, le système, tu sais, on joue à la même arena là, avec les Lakers.
Ben oui, c'est pour ça, je te demande.
À un moment donné, j'attendais pour l'avion privé, puis avec l'équipe, puis j'ai vu Leonardo DiCaprio débarquer.
Il t'a-tu dit « Hey, Philippe! »
Non, il s'est allumé une cigarette puis il s'est mis à chanter. Donc,
ah oui? Il avait pas l'air trop tracassé?
Non, il avait pas du tout tracassé. Il avait sa blonde, je pense, avec un grand chapeau. Donc, c'était vraiment assez impressionnant. Il y a Vince Vaughn aussi qui vit proche de nous, l'acteur qui est... Je pourrais t'en amener plein, mais on verra ça de même.
Ben non, mais c'est drôle, pareil. En terminant, il y a eu un changement d'entraîneur pendant la saison. Écoute, quand tu considères que Martin Saint-Louis est rendu et André Tourigny sont rendus 5 et 6e sur la liste d'ancienneté, ça te donne une idée que c'est pas facile de durer longtemps derrière un banc. Qu'est-ce que ça a provoqué, le changement d'entraînement? Puis, t'as-tu des échos que si Jim Miller va revenir la saison prochaine, Philippe?
Non, j'ai aucune idée de tout ça. Là. Je pense que les Kings ont des grosses décisions à prendre prochainement. Là, puis j'imagine que ça va brasser avec la fin de saison qu'on a eu, pas espéré. Là. Comme je t'ai dit, on n'est pas loin d'avoir du succès, mais il y a une couple d'affaires à fixer. Puis je ne sais pas si coach en fait partie. Tu sais, Jim a fait une bonne job avec lui quand même. Il est arrivé sur le tas comme ça, puis il n'a jamais été head coach non plus. Donc, tu sais, il y avait une grosse job mentale à faire. Puis il a bien fait, mais tu sais, c'est difficile de juger pour nous, genre, si c'est ce qu'il nous faut pour aller all the way. Tu sais, il y a eu une demi-saison en tant qu'head coach, donc c'est difficile pour l'organisation aussi, j'imagine, de juger ça.
Il n'y a aucun doute. Puis, as-tu, comme francophone, as-tu un lien spécial avec Pierre-Luc Dubois? Tu sais, il était beaucoup sous les réflecteurs, nouveau contrat, nouveau venu avec les Kings. Ça n'a pas tourné comme il voulait. Il l'a dit, it's on me, mais je veux dire, as-tu essayé de le guider à travers tout ça? Toi qui as eu à t'intégrer à Los Angeles une couple d'années déjà?
Oui, ça, tu sais, c'était pas facile pour Pierre cette année. La première saison d'un gros contrat. C'est pas le premier à qui ça arrive non plus, ça sera pas le dernier. Donc c'était une saison vraiment difficile mentalement, là, j'imagine. Je me souviens à mon année de contrat, avant la finale de la Coupe cette année, j'avais pas de but en 25 games. Donc tu sais, des fois quand c'est dur mentalement, c'est dur de se relever de ça. Puis ça creep in, là, c'est de plus en plus lourd, puis je pense que c'est ce qu'il a vécu. Donc, on le vit tout à un certain point, puis c'est malheureusement sur sa première année de son gros contrat-là.
Ouais, ça peut devenir pesant. En terminant, quand tu es en vacances, tu décroches-tu du hockey, Philippe, ou t'en regardes pareil?
Ben là, en ce moment, j'en regarde, là, c'est sûr, les playoffs, c'est toujours excitant à suivre, mais évidemment, il fait un petit peu plus mal à regarder. J'aimerais mieux être sur la glace, mais
c'est sûr.
En même temps, je regarde des petites choses que je peux améliorer.
En tout cas, les beaux sons de la vie familiale, les sons d'enfants, ça nous garde les deux pieds sur la terre, pas à peu près, Philippe. Je te salue de même que ta conjointe Marie-Pierre. Merci beaucoup de ces quelques minutes avec nous. On l'apprécie énormément. Puis une belle saison morte, des belles vacances pour toi, Philippe.
Ça fait plaisir, Mario. Merci beaucoup à vous. Là.
Ben merci beaucoup, Philippe Dano. Ben toi aussi, Philippe. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'était Philippe Dano avec nous, aux amateurs de sport.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Maintenant, Dubras camarade hier, en fin de match, particulièrement à Boston, ben, il fallait s'attendre à une série épique, là, puis elle ne fait que commencer. On a eu droit à un combat entre Pasternak hier, qui a presque demandé la permission à son coach, de dire « Hey, coach, je peux-tu y aller? » On pouvait pas lire sur les lèvres, mais ça ressemblait à ça, parce qu'il en avait envie. Je sais pas quelle était l'intention. Et le résultat n'a pas été à la hauteur de ce que Pasternak souhaitait, mais en tout cas, il a démontré qu'il était pas peureux, très certainement. Il a démontré qu'il avait du courage. Il reste que c'est 1-1 dans la série, qui se transporte maintenant vers Boston, un des plus grands partisans des Bruins au Québec, très certainement. C'est de notoriété publique. Puis il est aussi grand partisan que les gens l'aiment, puis c'est un grand acteur, Gildor Roy, que vous connaissez bien à l'antenne ici au 98.5. D'ailleurs, je pense que c'est sa troisième entrevue en moins de 24 heures. Bonsoir, Gildor.
Comment ça va, maire?
Ça va très bien, mon Gildor. Je suis vraiment content que tu aies accepté de nous parler. Comment as-tu vécu le match hier, puis la fin de match, Gildor?
Ben écoute, je l'avais enregistré parce que je travaillais, puis j'ai trouvé ça, j'ai regardé des grands bouts en accéléré, moi je vais te dire. Et à tel point que j'ai sauté l'abatteur, j'ai vu l'abatteur de Pasternak aux nouvelles ce matin.
Ah!
J'avais pas vu ce bout-là.
OK, OK.
Mais j'ai, puis la bataille pour les bagarres, contre les bagarres, c'est une affaire, on en parlera tantôt, mais ce que j'ai retenu de tout ça, les Bruins n'étaient pas là dans le game-là, là. Ils étaient, c'était-tu à fatigue, c'était-tu. Tu sais, souvent, les équipes ont le talent de chercher une à l'étranger, puis là, peut-être qu'ils mettent la pédale plus douce. Mais après le match, Pasternak, en entrevue, a dit, moi, j'ai pas peur de Tkachuk. Je suis capable de donner des coups de poing, puis je suis capable d'en recevoir. Mais je le fais pour les gars dans la chambre. Je suis prêt à me battre pour eux autres. Il n'y a rien que je ne ferais pas pour eux autres. Et ça, dans une chambre des joueurs, ça a un effet. Ça, je suis convaincu de ça.
Et je sens que ça t'en rejoint, là, parce que je sens toute la conviction d'un vrai partisan de son équipe, là, hein?
Tu sais, moi, j'ai toujours maintenu que ces affaires-là, ça arrive parce que les arbitres décident on va les laisser jouer à soir. C'est le seul sport où il n'applique pas les règlements comme dans la saison. Tu sais, au football, même dans le... Tu sais, tu as joué au football. Même sur le dernier jeu du match, l'équipe mène 68-0. S'il y a une pénalité, l'arbitre va siffler. Il faut que tu reprennes le jeu. Tu sais, ça devrait être comme ça aussi. Fait que ça donne des résultats comme un des meilleurs compteurs de buts de la Ligue qui aurait pu se péter une main.
Vraiment.
Parce que Kachuk, à mon humble avis, ce que j'appelle un jaune, parce que Kachuk, il n'ira pas faire ça à Pat Maroon. Mais peut-être qu'il n'aura pas le choix de le faire au match numéro 3.
Peut-être. Hey, c'est drôle, ça me fait sourire. Tu sais, à cette heure, il faut faire attention à chaque mot qu'on utilise. Il y a déjà quelqu'un qui m'a fait un papier d'un site bidon parce que j'avais qualifié quelqu'un de jaune, Joe Thornton, je pense. Puis là, il est allé chercher des réactions dans la communauté asiatique. Tu sais, quand tu cherches des...
Ah ouais, non, mais moi, jaune, c'est une traduction de yellow belly, en fait. C'est une expression anglaise. Ça n'a rien à voir avec nos amis asiatiques. Vraiment.
Non, mais je le sais. Je trouvais ça complètement ridicule qu'on m'ait prêté cette intention-là, mais je le disais parce que ça me rappelait ça, parce que je pensais que tu étais pour dire un rat.
Ben, un genre de Ken Linsman 2.0 ou Brad Marchand avant qu'il devienne mature.
Ah oui, il est rendu mature, mais hier, il s'est fait provoquer. Là. T'as-tu vu la scène?
Bien sûr. T'sais. Mais quand même, depuis le début des séries, il a joué son rôle de capitaine. C'est assez remarquable de voir cette transformation-là aussi. Mais tu trouves pas, toi, le catcher qui choisit ses
Ben oui, c'est je suis pas en désaccord, c'est un jaune.
Bon, parfait, c'est toi qui vas recevoir les courriels.
Exact. J'appuie mes invités quand ils se mouillent, Gilda, crains pas. On saute ensemble. Et puis, mais oui, maman, écoute, c'est un gars que, tu sais, si je faisais une ligne ouverte à Mané, c'est qui le joueur que vous haïssez le plus ou qui aimez-vous le plus haïr? Puis Brad Marchand serait sans doute la réponse d'un paquet de monde. L'aimes-tu, toi? L'as-tu toujours aimé?
Ben, Brad Marchand, oui, toujours. Puis surtout, il a joué à Val-d'Or, puis je viens d'Abitibi, fait que c'est parfait.
Ben oui, c'est vrai.
Mais en même temps, si ta deuxième question, c'était quel joueur d'une autre équipe vous aimeriez vraiment ça qui vienne jouer avec votre équipe? Ben, du monde répondrait Brad Marchand aussi. C'est ça l'affaire.
Et peut-être Mathieu Kachuk aussi qui est dedans.
Ben oui, je le sais bien. J'aime mieux son frère. Son frère, lui, il est choisi pas, je trouve. Il prend le premier qui tombe sous la main.
Pis... Ouais. Le frère qu'on aurait pu repêcher à Montréal, mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, non, dis pas ça. Tu vas faire de la peine à du monde encore.
Mais Gildard, dis-moi. Moi, là, puis je suis sûr que tu as répondu à ça, puis tu l'as déjà expliqué à de nombreuses reprises, mais pour tous les gens qui ne le savent pas, puis tu vas me rafraîchir la mémoire, pourquoi les Bruins? Toi?
Bobby Orr. Moi, j'ai commencé à regarder le hockey, c'était Bobby Orr.
OK.
Il venait d'arriver, là, 70, 71, 72, ces années-là. Puis je suis comme tombé en amour avec sa façon de jouer. On l'aimait tellement, Bobby Orr, chez nous, que mon père achetait des hockey Northland à mon frère qui jouait à défense parce que Bobby Orr jouait avec des Northland.
C'est fou l'impact de quelqu'un
on
l'idolâtre. Fait que à travers tes tournages, vous n'êtes pas déjà en tournage pour Dumas, t'es-tu sur un autre projet?
On commence le 21 mai.
Okay.
Aujourd'hui, on est en lecture pour Dumas, là, toute la gang réunie, puis on lisait des épisodes. C'était bien le fun. Ça promet. Ouais,
ça n'a jamais arrêté, hein, Gildard? Tu as toute une carrière. T'as tellement. Hey, quand tu as un réalisateur.
Tellement privilégié, Mario, là, si tu savais. Là, pis, je me suis chanceux, puis à chaque projet qui me tombe dessus comme ça, je remercie le ciel parce que. C'est comme trop à un moment donné, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. J'aime tellement ça.
Comment tu regardes ta carrière puis tous tes accomplissements, tu sais, de juste de voir un Luc Dionne qui dit que t'es son Robert De Niro, là, une petite comparaison. Moi, je te trouve meilleur que De Niro, mais tu sais, c'est ça.
Mais écoute, moi, c'est le privilège, c'est que moi, à l'âge de 13 ans, je savais que c'était ça que j'étais pour faire dans la vie. Sérieusement, là. C'était clair, je l'ai annoncé à mes parents à l'âge de 13 ans. Bon, ça a été drôlement reçu, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais moi, je fais exactement ce que je voulais faire dans la vie. Puis je le sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ça fait que je l'apprécie vraiment beaucoup.
Vraiment. Puis t'as toujours eu cette attitude-là, cette espèce de sérénité. Puis, en tout cas, de ce que tu dégages, ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu des tempêtes intérieures ou des tempêtes tout court dans la vie. Bien c'est pas sûr. Toujours un long fleuve tranquille, mais tu sembles un homme, t'as l'air d'un homme serein. Puis, tu sais, je te connais pas personnellement. On s'est déjà croisé un peu quand même, mais tu sais, t'as l'air d'un gars que tout le monde apprécie. Puis, non seulement professionnellement, mais je parle en deux claps de tournage, là.
Ben, écoute, moi, c'est la plus belle job au monde, là, puis quelque chose que je serais pas capable de faire, c'est la tienne.
Ah ouais.
Ça, c'est une mauvaise de belle job, moi, de dire.
Ben, t'as fait de la belle
toi,
radio.
T'es parfaitement heureux là-dedans en faisant ça.
Oui.
Puis ça paraît. T'sais, tout ça, là, les gens ont comme un radar ABS. Là. Puis si t'aimes pas ça, ce que tu fais, puis tu trouves ça plate, le monde, ils vont le ressentir, puis ils t'écouteront pas. T'sais. Fait que je pense que ça va avec.
T'as fait des belles années de radio à travers tout ça, Gildor, hein?
Pas pire quand même.
Pas pire,
ouais, j'ai bien aimé ça, la radio. C'est un médium fantastique.
Puis t'en as sûrement pas fait pour la dernière fois. C'est juste que toi, dans le fond, c'est des fois, c'est quand t'as un petit peu de temps de l'eau, j'imagine, hein, que t'as de la place pour ça. Sinon, t'es toujours en tournage.
Ah, moi, pas toujours, tu sais, puis plus ça va, plus comme avec l'âge aussi, tu choisis tes jobs, tu sais, mais moi, on m'offrirait, j'ai l'air de quêter, là, mais on m'offrirait une job à radio, j'y pensais en tabarnouche, tu sais, parce que c'est un médium qui fait appel à quelque chose qui n'existe plus dans notre vie, l'imagination.
Oui.
Tu sais? Et quand Martin puis Danny décrivent un match, là,
oui.
On le voit.
Oui.
Mais, tu sais, ils pourraient décrire autre chose puis inventer des affaires, mais on ne le saurait pas, mais ils réussissent à nous faire rêver ça. Ça, là, c'est puissant, tabarnouche, tu sais.
Mais, surtout quand
on a. Je suis donc bien sérieux. Je sais pas ce qui se passe.
Mais t'es en lecture toute la journée, Gildor, là. Ouais. T'es ce qu'on appelle, t'es groundé, t'es vraiment terre à terre.
C'est peut-être ça.
C'est peut-être ça. Puis peut-être qu'il faut que tu regardes encore les reprises de la fin de match d'hier pour te survolter ou que je t'amène en reparler. Mais veux pas, ça, tu penses-tu que cette tolérance à se moucher dans la face avec les gants, etc., tu sais, parce que c'est voulu. Tu sais, il y a une poque dans les estrades, Gildor, il donne un 2 minutes automatique. Tu sais, fait quand il va donner un 2 minutes, ils sont capables. Tu sais, c'est simple comme bonjour. Mais il les donne pas parce qu'il aime ça.
Il y a bien des non-sens, Mario. Puis je pense à ça en voyant la face à fait ça dedans de Kachuk. Puis, tu sais, il y a toujours son petit protège-dent en dehors de la bouche. Il y a beaucoup de joueurs qui mettent pas leur protège-bouche dans leur dent, tu sais. Mais pourtant, l'Association des joueurs a déjà poursuivi la Ligue pour les commotions.
Oui.
Puis ça, c'est un outil anti-commotion.
Oui. Mais toi, tu rêves d'y faire avaler son protecteur buccal, je pense, Gildor.
Oui.
Hein?
C'est une réponse bien franche, oui.
Oui. C'est drôle parce que sais-tu quoi? Je demande à Julien Brisebois hier, tu penses-tu que tu as pris un grand risque à attendre la fin de l'année pour signer Stamkos? Il me dit non.
C'est bon.
On est toujours un peu surpris par une réponse d'un mot. Tu sais, c'est pas habituel. Fait que tu trouves le temps de regarder ça là, entre deux tournages puis ta série des Browns surtout. Puis penses-tu qu'ils vont gagner? Penses-tu que le geste de Pastrnak va rallier l'équipe?
Ça va être bien intéressant la partie numéro 3. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans les 5 premières minutes. Puis je pense que c'est pas Pastrnak qui va y aller ce coup-là.
Ah oui?
Malheureusement.
Je serais bien surpris qu'il se passe de quoi dans les premières minutes, tu penses, toi?
Ben, je sais pas. Peut-être dans le réchauffement, on a déjà vu ça, hein? On a vu ça à Montréal même déjà. Mais tu sais, les Browns, je trouve ça formidable ce qu'ils ont réussi à faire cette année. Après la perte de Patrice Bergeron puis Krejci.
J'ai été surpris, moi.
Ils ont pas de centre numéro 1, les Browns.
Non.
Vraiment, là.
Non.
Charlie Cole, c'est un bon centre numéro 2. Mais c'est pas mal ça qui est ça, là. Fait que ils jouent bien, ils ont un bon système, tout ça. Le goaler, bon, il a cassé hier, mais ils ont des bons goalers. Mais tu sais, les Panthers, même si j'aime pas Kachuk, là. C'est un gros club de hockey.
Oui, oui, oui. Tu sais, avant, on disait les méchants Browns, mais je pense, sont-ils plus méchants que les Browns à cette heure, les Panthers?
Ben, ils sont plus méchants. Nous autres, c'est les nice big Browns à cette heure.
Les temps changent, Gildor.
Oui, mon vieux, ça marche, qu'est-ce que tu veux.
Deux petites questions de coach. Le coach Gildor, là, donc, si t'étais derrière le banc, toi, demain, là, tu donnes-tu une tape dans le dos à un de tes gars en première période pour qu'il aille y arracher le mouthpiece?
Non, je pense même pas qu'il y aura besoin de le faire. Mais ce qui était formidable, c'est quand Pastrnak est allé dire à son coach, là, je t'avertis, je m'en vais me battre avec Kachuk. Puis Montgomery, s'il voit la face, hein, es-tu sérieux? T'es sûr de, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il est allé le dire à son coach avant, ça, c'est rare. tabarnouche. C'est comme une affaire de gentleman, tu sais. Mm. Si vous me le permettez, monsieur, je vais aller provoquer le monsieur en duel. C'était bien vraiment weird comme affaire. Mais ça devrait pas exister, tu sais.
Mais oui, c'est vrai que c'était cocasse, puis je veux pas étirer ça parce que j'imagine que t'es fatigué, mais t'as-tu entendu les propos de Paul Maurice, puis de... Ça te tente-tu de les écouter avec moi, Paul Maurice?
Ah, ben oui, bien sûr.
OK, puis tous les gens vont écouter ça. Paul Maurice, après, sur les combats, le combat d'hier.
They each have their team, right? They got their brothers in the room. It gets a little spicy out there, and they want to go. I think it was awesome. I think when it was over, they both looked like they were fine. Sorry, whoever's offended by that concept, I don't care. I thought it was awesome.
Ben, tu vois, il fait référence à their brothers in the room, à leurs frères dans la chambre des joueurs. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ça aussi.
Exactement. Puis il dit, les gars avaient l'air corrects après le combat, mais tu sais, il insiste sur le awesome. Ça avait l'air jouissif là, quand il le disait. Voici Jim Montgomery sur le même sujet.
What I'm really proud of, I'm proud of Pasta. Because there's so many guys out there pushing after whistle when the linesmen are there. Pasta and Kachuk, they just went out there and fought. That's what you like. You like your hockey players to be competitors.
On aime ça quand nos joueurs de hockey sont des compétiteurs.
Ouais, il y a de quoi de plus clean là-dedans que de gosser avec son hockey, c'est sûr.
C'est bien sûr. C'est garanti.
Tu sais, Jack Edwards, qui était le descripteur des matchs des Bruins, qui a pris sa retraite, il a calé sa dernière série contre Toronto.
Oui.
Lui, quand Pasternak a marqué en prolongation, bring me a big bowl of pasta. ça a été le dernier quart de sa carrière.
Wow.
C'est pas pire.
Hey, mais. Puis dernière question, coach Gildor, assistant coach Jim Montgomery, qui c'est que tu mets devant le filet demain, Hallmark ou Swayman?
Swayman.
OK.
Ouais.
OK.
Swayman.
Tu restes avec Swayman. Ben, il a fait une bonne job. C'est juste un match hier.
Oui. Puis, tu sais, il a le droit d'en échapper une de temps en temps. Regarde, ils ont mis Bobrovsky. C'était les mêmes conditions, à peu près. Là.
Exact.
Ton cheval, tu y vas avec ton cheval, je pense. Ouais.
Perdre 2-1, perdre 6-1, c'est une défaite d'attitude. On passe à d'autres choses.
Exactement.
Hey, Gildor, quel bonheur de t'entendre, de te parler. Puis, au plaisir de te revoir en personne. Écoute, on va t'arranger ça. Si tu veux faire de la radio plus souvent, nous autres, on va.
Mario, quand les Bruins auront éliminé les Panthers, tu me rappelles, ça va me faire plaisir.
Ben, c'est garanti, Gildor. On part. D'un coup, tu deviens leur porte-bonheur, puis que ça va jusqu'en finale.
Ah, j'aimerais bien trop ça.
Merci. Redeviens sérieux et retourne à tes lectures, Gildor.
Merci beaucoup, Mario.
Merci beaucoup. Bye-bye, Gildor. Hey, quel plaisir de parler à Gildor Roy, qui va jouer Jean Dumas dans la prochaine série de Luc Dionne qui va s'intituler Dumas.
Les amateurs de sport.
C'est 23.